esprit éclaire nos cœurs, nos intelligences. Viens embraser nos cœurs. Donne-nous le désir de Dieu. Alors que s'approchent les célébrations de la Semaine Sainte, donne-nous de suivre Jésus. Donne-nous le désir de suivre Jésus. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours.
Saint Jean-Paul II,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Permettez-moi de vous féliciter d'avoir bravé le froid pour être venu. Et alors je me faisais la réflexion avec l'une d'entre vous. C'est très étonnant, la logique, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes qui sont venus au début, quand c'était seulement les femmes, quand c'était seulement les hommes, quand c'était les deux ensemble. C'est très marrant, je ne sais pas comment... Parce qu'on pourrait penser que c'est mathématique, vous voyez, il y a deux fois moins que les femmes, deux fois moins que... En fait, non. Il y en a eu autant à chaque fois, mais voilà. Voilà, ça convient aux uns et aux autres. Les uns, c'est très... Nous sommes donc là tous ensemble pour retrouver toujours Saint Jean-Paul II, et nous allons méditer avec lui, sous son regard... La question de la mission. Vous allez voir le sens que ça peut, le lien que ça peut avoir avec le carême, au cours de l'exposé. Mais je voudrais commencer par vous partager une histoire que j'ai découverte, que je ne connaissais pas, mais en travaillant cet exposé, je suis tombé dessus et ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup fait méditer à double titre. D'abord, pour le thème qu'on va traiter, puis aussi parce qu'il y a un point commun avec notre paroisse. Jean-Paul II disait à Nanjon Courjour en 82, après la tentative d'assassinat qu'il a subie, « Dans les desseins de la Providence, il n'y a aucune coïncidence. » C'est pour cela que quand le 13 mai 81, il est atteint de ces balles tirées par le terroriste et que ces balles vont miraculeusement épargner ses organes vitaux, il aura immédiatement, en se réveillant à l'hôpital, l'intuition profonde que c'est Notre-Dame de Fatima qu'on célébrait, qu'on fêtait ce jour-là, qui l'a protégé. C'est pour cela que plus tard, il ira au Portugal, à Fatima, déposer dans la couronne de la Vierge une balle, une des deux balles, celle qu'on a retirée de son corps, et qui avait vraiment zigzagué pour éviter les organes vitaux. Autre date étonnante, la canonisation de Jean-Paul II a été choisie, la date a été choisie le 27 avril. 27 avril, et peut-être que, mais je ne suis pas sûr parce que moi je ne savais pas, peut-être d'être bien plus fort que moi, mais le 27 avril, c'est un événement important dans la vie de la Pologne. Ça me rassure, vous ne savez pas non plus. C'est normal, c'est quand même particulier. On est à Nowa Huta. Nowa Huta, c'est une ville nouvelle qui a été construite juste après la Seconde Guerre mondiale par les communistes. Dans la banlieue de Cracovie. Nowa Huta, c'est une ville qui veut être vraiment la vitrine de la splendeur et de la réussite du communisme. Et donc, c'est une ville avec tout est neuf, tout est construit de façon très, très bien faite, avec toutes les usines autour. C'est une ville ouvrière, mais vraiment conçue comme une vitrine. C'est pas anodin que ça soit choisi à côté de Cracovie, parce que Cracovie, c'est le centre intellectuel, culturel et spirituel de la Pologne. Et là, à côté de Cracovie, eh bien, on veut construire cette ville. Il y a un cinéma, il y a un théâtre, des clubs sportifs, des bibliothèques, des écoles. ça se fait remarquer par sa splendeur, il ne manque qu'une seule chose, une église. Et c'est délibéré. On veut construire une ville sans Dieu. On veut construire vraiment l'image d'un monde sans Dieu, qui est possible, que une sorte de paradis sur terre, que à l'époque le régime soviétique voulait faire advenir. Et cette ville, alors qu'elle est peuplée essentiellement d'ouvriers, de paysans polonais qui sont catholiques, eh bien cette ville n'a pas d'église. Pendant plusieurs années, les résidents, les habitants vont chercher à obtenir une autorisation, un permis de construire, une autorisation de construire l'église. Ce n'est qu'en 1956, à l'occasion d'un dégel politique, d'un assouplissement, que les autorités communistes vont accorder l'autorisation de construire un lieu de culte sur la grande place de la ville. Les citoyens commencent par établir une grande croix, une très grande croix en bois. Ça devient vraiment la place, le cœur de la vie religieuse de la ville. Les prières sont faites, on célèbre la messe en plein air devant la croix. Mais les autorités finalement se referment et ne permettent pas de construire plus, et en particulier ne permettent pas de construire une église. Qui plus est, le pouvoir ordonne bientôt de retirer cette croix. Le 27 avril 1960, les ouvriers sont envoyés pour protéger par des gardes armés tôt le matin pour commencer à démolir la croix de Nowa-Huta. Un groupe de femmes, comprenant ce qui est en train de se passer, s'armèrent de balais, de paniers d'épicerie, de briques et de bouteilles pour faire un rempart autour de la croix. Puis, les ouvriers qui sortaient du premier quart de travail arrivent. Plus d'un millier d'hommes se mettent à affluer vers la croix pour la protéger, armés de pelles, de pioches. Quelques 5000 travailleurs et citoyens se sont ainsi rassemblés autour de la place. Et là, alors que le début était une protestation non violente, évidemment quand la police et l'armée arrivent, la milice arrive, eh bien ça se transforme en bataille rangée. Cette défense de la croix va durer plusieurs jours et mener à une sanglante répression. Une douzaine de personnes furent tuées, des centaines ont été blessées, 500 personnes ont été arrêtées. Beaucoup sont partis en prison, d'autres ont perdu leur emploi. Mais la croix est demeurée, le pouvoir a cédé. 27 avril 1960. Il y a à ce moment-là, depuis 1958, un tout jeune évêque auxiliaire de Cracovie, encore plus jeune que le fut Mgr Valentin, puisque Jean-Paul II, Karol Wojtyla, à 38 ans à peine, avait été nommé évêque auxiliaire de Cracovie. Il deviendra archevêque de Cracovie au moment, un peu avant le concile. Donc il a vécu ça de près. Et il a en particulier tout fait pour protéger les victimes de cet événement, pour essayer de faire libérer ceux qui avaient été mis en prison, etc. Je continue. 1981, même avant, 1979, pardon, premier, 81 en France, 79, premier voyage de Jean-Paul II dans son pays, il a été élu en 78. 79, premier voyage de Jean-Paul II en Pologne, la Pologne toujours sous le régime marxiste. Et Jean-Paul II, évidemment, demande à aller célébrer à Nowa-Huta. On lui refuse, le pouvoir de l'époque refuse qu'il puisse célébrer là. Il va donc célébrer à quelques kilomètres à peine, dans une abbaye connue pour abriter une relique de la Sainte Croix. Et c'est là, à Nowa-Huta, auprès de Nowa-Huta, auprès de cette grande croix toujours là, qu'il va pour la première fois parler de la nouvelle évangélisation. Je vous lis ce qu'il dira. « Dans son homélie au sanctuaire de la Sainte Croix, 9 juin 1979, le pape souligne que l'histoire de Nova Ota a été écrite sous le signe de la croix. D'abord, cette croix antique dont on garde la relique dans ce monastère, puis sous celle installée récemment dans la cité. Là où s'élève la croix, surgit le signe que la bonne nouvelle du salut de l'homme grâce à l'amour est arrivée jusque-là. Une nouvelle évangélisation est commencée, comme s'il s'agissait d'une deuxième annonce, bien qu'en réalité ce soit toujours la même, la croix domine le monde qui change. À partir de la croix de Nova Ota, la nouvelle évangélisation a commencé. Cette église, qui entre-temps avait été construite, en rend témoignage et en est la preuve. Jean-Paul II, qui est connu comme le pape de la nouvelle évangélisation, celui qui a lancé ce renouveau de la mission au service d'un monde occidental déchristianisé, eh bien, a utilisé pour la première fois cette expression, qui va être ensuite beaucoup entendue, à Nova Ota. Je trouve ça, moi ça m'a parlé immédiatement, d'abord parce que la mission dans un monde déchristianisé, c'est un sujet pour nous tous, mais aussi parce que c'est l'histoire de la construction d'une église. C'est en 1977, vous voyez, enfin, on va, les paroissiens de Nova Ota vont réussir à construire leur église. Voilà. Mais ils ont été patients, ils ont été courageux, et je trouve ça très, très fort à méditer. Vous voyez. Là où une croix est plantée, ça veut dire que la bonne nouvelle est arrivée. Et on commence par là. Et la nouvelle évangélisation que Jean-Paul II va lancer dans le monde entier, eh bien, c'est comme un fruit mystérieux, mais réel, de ce drame de Nova Ota, de ce courage des paroissiens de Nova Ota, de cette croix de Nova Ota. Et je me dis, moi qui suis de la génération... grandi avec Jean-Paul II. C'est ça qui m'a fait grandir dans ma foi. Ça a été le pape de ma jeunesse, de mon adolescence, de mes débuts. Eh bien, je ne connaissais pas cet épisode. Oui. Mais c'est vraiment, pour le pape Jean-Paul II, c'est un moment déterminant. Et c'est là qu'il fonde cette intuition profonde de la nouvelle évangélisation. J'aimerais m'arrêter du coup sur ce terme-là. Pourquoi ? Parce que il me semble, et Jean-Paul II y reviendra, que tout est orienté, et pas simplement notre vie, mais la vie de la paroisse, la vie de l'Église, le pape François y revient souvent aussi, tout est orienté vers la mission. Ça veut dire qu'une paroisse qui vivrait pour elle-même, des chrétiens qui vivraient centrés pour eux-mêmes, une église qui serait auto-centrée, en fait serait vouée à disparaître, dit souvent le pape François. Ce que nous essayons de vivre, y compris pendant le carême, ce que nous essayons de construire, ce que nous essayons d'améliorer, c'est dans notre paroisse, c'est le but du synode, tout cela doit être au service, non pas de nous-mêmes, mais de la mission. Et Jean-Paul II, pourquoi il avait cette intuition profonde ? Parce qu'il a vu, le drame de l'athéisme moderne. Il a, avec son peuple, il a subi l'athéisme nazi, l'occupation nazie, puis il a vu l'athéisme communiste, l'occupation, enfin en tout cas l'emprise de l'URSS, il a vu ce que donne une société qui veut se construire sans Dieu. Il a vu ce ravage, ces ravages de l'athéisme militant, de cette opposition, cet orgueil fou de l'homme qui veut déraciner de l'homme sa dimension spirituelle. Et c'est pour ça que quand il contemple la déchristianisation, au-delà du rite offert de l'Ouest, en fait, ça lui tord le cœur. parce que eux ont tenu derrière le rideau de fer. Eux ont donné leur vie parfois pour défendre une croix. Vous voyez ? Parce que là où est la croix, là est annoncé l'amour de Jésus-Christ. Et donc en voyant tout d'un coup des pays riches, un Occident confortable, abandonné, la foi, Jean-Paul II, ça fait qu'un tour, quoi. Il a dit, mais il faut relancer cet élan missionnaire. Qu'est-ce qu'il dit ? Notre société chrétienne, en dépit des nombreuses faiblesses de l'humain, dont l'humain est toujours marqué, se référait autrefois explicitement aux valeurs évangéliques. C'est quelque chose qu'on a vu, enfin, c'était encore vrai au début du XXe siècle, hein. Même. Vous voyez, par exemple, quand M. Mélenchon nous parle de sa vie, il a été enfant de cœur, il a une culture chrétienne. Il ne croit pas, mais il a en commun, vous voyez. Et tous les gens, beaucoup de sa génération, avaient encore ça en commun. La société, même de façon laïque, était imprégnée de christianisme. Aujourd'hui, dit Jean-Paul II, oui, il dit ça, c'est pas en 79, non, c'est au milieu de son pontificat. Hein. Aujourd'hui, dit Jean-Paul II, on doit affronter avec courage une situation qui se fait plus diversifiée et plus prenante dans le contexte de la mondialisation de la mosaïque nouvelle et changeante des peuples et des cultures qui la caractérise. À maintes reprises, j'ai répété ces dernières années l'appel à la nouvelle évangélisation. Il ne se plaint pas. Il part du constat que ce monde a besoin à nouveau d'être évangélisé. Et pour cela, il va donner trois caractéristiques, je vais m'arrêter dessus, de cette nouvelle évangélisation. La première, c'est de retrouver l'élan des apôtres. Il le dit en 2001, dans sa lettre « Novo Milieno in Luviente », je le reprends maintenant, j'ai parlé souvent de l'appel à la nouvelle évangélisation, je le reprends maintenant, surtout pour montrer qu'il faut raviver en nous l'élan des origines, en nous laissant pénétrer de l'ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Nous devons revivre en nous le sentiment enflammé de Paul qui s'exclamait « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Je trouve là qu'on rejoint le carême. Il s'agit, comme le dit Paul d'ailleurs lui-même à Timothée, de raviver en nous le don que nous avons reçu. Voyez ? Et je trouve ça très fort de dire que la nouvelle évangélisation, la mission, c'est pas de faire table rase du passé. C'est pas de faire table rase de l'héritage des générations passées. C'est pas de croire, comme chaque nouvelle génération a tendance à le croire, qu'on va enfin découvrir la méthode, la spiritualité, la façon de faire qui va tout régler. Non. C'est d'aller puiser dans l'héritage profond qui est le nôtre. Cet élan des apôtres. C'est de vivre, en quelque sorte, une nouvelle Pentecôte. Ça a été souvent, beaucoup de mouvements charismatiques ont eu ce refrain-là, ce leitmotiv. Mais ce n'est pas réservé à ceux qui se reconnaissent dans cette spiritualité. Il s'agit de retrouver en nous cette ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Ils étaient 12 dans un monde païen. Nous, on se lamente. Ils étaient 12 dans un monde païen. On est plus que 12. La vraie question, ce n'est pas le nombre, c'est l'ardeur. C'est la foi. À 12, ils ont changé le monde, ils étaient pleins d'Esprit Saint, Jésus était reparti, c'est terminé. Donc ils étaient 12. Persécutés dans un monde païen. Mais ils avaient cette ardeur. Ils étaient pleins d'Esprit Saint. Et ça nous est donné. La plupart d'entre nous avons été confirmés, nous pouvons l'être si nous ne sommes pas encore. Mais, vous voyez, je suis le premier à regarder les chiffres, les tableaux Excel, machin, etc. C'est catastrophique partout. Et je suis le premier, peut-être à trop me plaindre. Au détriment de ce retour, mais pas il y a 50 ans, pas il y a 100 ans, de ce retour au cœur de la foi, voyez, de dire, mais au fond, qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui a fait que ces 12-là ont eu l'audace, dont nous sommes les héritiers. Nous sommes là parce qu'ils ont eu l'audace, parce qu'ils y ont cru. Ravive en toi le don que tu as reçu. Et le carême peut être une belle façon, mais souvent c'est quand vous mettez des bibelots, des cadeaux qu'on vous a fait, sur les stagiaires, c'est très gentil, voilà. Et la poussière commence à s'accumuler. Bon. Et puis on finit par même oublier ce qu'on a. Et puis tout d'un coup, parfois on fait un peu de ménage, on enlève la poussière, puis on redécouvre un trésor, on se dit, j'avais ça. Où on réouvre le livre, parfois depuis très très longtemps, et on est émerveillé. Bien, c'est un peu pareil. Oui. Le carême, si on fait un peu le ménage, dans notre âme, dans notre vie, etc., c'est aussi pour redécouvrir, de façon plus étincelante, de façon plus brillante, ce qu'on a reçu au baptême, ce qu'on a reçu à la confirmation, ce qu'on reçoit en chaque Eucharistie, ce qu'on reçoit dans le sacrement du pardon. Et c'est bon d'ailleurs de voir, je pense au sacrement du pardon, de voir certains qui reviennent vivre une confession pour la première fois depuis très longtemps et qui redécouvrent cette joie, mais de façon émerveillée. Vous voyez, ils avaient ce trésor à disposition et puis, pour X raisons, ils étaient sous la poussière. Ravive en toi le don que tu as reçu. Et j'aime, vous voyez, avant de parler de méthode, de machin, de structure, de tout ça, en fait, la première question, c'est, voilà, est-ce que j'ai en moi cet élan, est-ce que je me laisse habiter par l'Esprit-Saint pour qu'il embrasse mon cœur comme l'a été celui des apôtres. À 12, ils ont changé le monde. Ils vont donc changer le monde. Mais est-ce que nous y croyons? Voyez. C'est-à-dire, est-ce que nous avons toujours. Et encore une fois, je me mets dedans, hein, parce que c'est vrai pour moi aussi. Tendance à voir ce qui nous manque pour changer le monde. Voyez. Alors, merci, on avait plus de si. Moi, si j'avais 4 vicaires, 5 vicaires, voyez, je dis ça à mon évêque. Je dis, mais donnez-moi des vicaires. Mais, en fait, si nous étions ardents comme l'étaient les apôtres, peut-être qu'on n'a pas besoin de 10 vicaires. Vous voyez, c'est ça d'abord la vraie question. Avant de voir tout ce qui nous manque, est-ce que je crois en ce que j'ai, en ce que j'ai reçu? Deuxième idée, l'annonce explicite de Jésus-Christ. Pour le pape Jean-Paul II, cette nouvelle évangélisation, elle est vraiment christocentrée, c'est-à-dire centrée sur le Christ. Le caractère singulier et nouveau de la situation où le monde et l'Église se trouvent, dit-il en 2000, et les exigences qui en découlent font que la mission évangélisatrice exige aujourd'hui un nouveau programme que l'on peut définir dans son ensemble comme une nouvelle évangélisation. En acceptant cette mission, que chacun se souvienne que le nœud vital de la nouvelle évangélisation doit être l'annonce claire et sans équivoque de la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'annonce de son nom, de sa doctrine, de sa vie, de ses promesses et du royaume qu'il s'est acquis par son mystère pascal. Là aussi, je trouve ça précieux à méditer. Évangéliser, c'est pas partager nos opinions. Évangéliser, c'est pas imposer nos modes de vie, nos convictions qui seraient trop humaines. Évangéliser, c'est parler de Jésus-Christ. Oui. C'est d'abord parler du Christ et partir du Christ. c'est permettre que les uns et les autres puissent rencontrer Jésus-Christ, et non pas être d'accord forcément avec moi. Or souvent, parce qu'on aime débattre, parce qu'on aime... Et, vous voyez, on veut convaincre l'autre de venir à ce qu'on pense. Mais il s'agit d'amener à Jésus, de parler de Jésus. Et là aussi, il y a une conversion à vivre. Est-ce que je suis capable de partager ma relation que j'ai avec Jésus-Christ? Si je vous demandais les uns les autres de témoigner, d'abord, est-ce que Jésus-Christ serait nommé dans les trois premières phrases? Et ensuite, qu'est-ce que je dis de Jésus pour vous, qui suis-je? Avant de parler, de savoir si l'Église a raison de dire ceci ou cela, si machin, reviens à Jésus-Christ. À Jésus-Christ, à son nom, à sa doctrine, à sa vie, à ce qu'il promet. Et Jean-Paul II, il a jamais voulu, vous voyez, par la nouvelle évangélisation, imposer un style, une façon d'être catholique, une spiritualité particulière. Mais il a voulu parler de Jésus à ce monde qui ne le connaît plus. Un tiers des enfants aujourd'hui baptisés, c'est-à-dire les deux tiers, n'ont jamais entendu parler de Jésus, le nom par lequel tous nous sont sauvés pourtant. Oui. Jésus-Christ. Alors, le pape, évidemment, le dira ailleurs, en particulier dans son nom, sa grande encyclique, Redemptoris Missio, mission du Rédempteur. Jean-Paul II rappellera, la première forme de la mission, le témoignage de la vie chrétienne est aussi irremplaçable, évidemment. Bien sûr qu'il s'agit d'être, que notre vie reflète, que notre charité, que notre... ce témoignage, d'ailleurs, il le continue, implique non seulement que nous prenions des positions courageuses et prophétiques face à la corruption du pouvoir politique, en particulier, dit-il, mais que nous pratiquions l'humilité en servant les plus pauvres, les faibles, les souffrants, et en imitant la simplicité de la vie du Christ. Oui, il y a un témoignage par les actes, par la vie, par les engagements. Et à cela doit se ajouter l'annonce explicite du nom de Jésus-Christ. Et parfois, on a eu tendance à choisir entre les deux. Soit on a dit, ben, moi je rends service dans telle ou telle association, dans telle ou telle chose, et voilà, comme le vin dans la pâte, je n'ai pas besoin, je ne veux pas imposer aux autres que de parler de Dieu, donc j'essaye juste d'aimer les autres. D'autres ont dit, ben si, nous on matraque le nom de Jésus, mais sans peut-être avoir aussi la charité ou la vie ou l'engagement qui incarne justement cet exemple, le fait qu'on essaie d'être disciple du Christ. En fait, Jean-Paul II a vraiment été celui qui nous a encouragés, vous voyez, à porter les deux en même temps. Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre ou l'un ou l'autre. Parfois, on n'est plus à l'aise, évidemment, avec l'un ou l'autre. Mais il faut les deux. Parce que dans un monde chrétien, ben oui, vous pouvez rendre service, tout le monde comprend que vous rendez service parce que vous êtes chrétien, tout le monde est chrétien. Voilà. Au Moyen-Âge, quand vous étiez un pauvre, ben c'était évident pour tous que vous le faisiez par charité, machin, etc. Mais dans un monde qui n'est plus chrétien, on a besoin d'entendre au nom de qui vous le faites. Parce que c'est aussi cela que vous avez à donner, en plus de votre temps, de votre argent, etc. C'est le trésor que vous avez, que vous portez en vous, c'est la foi. Vous voyez ? Tant mieux si le service est une sorte de façon de partager. Mais on ne peut plus priver ce monde qui ne connaît pas Dieu de cette connaissance de Dieu. Jean-Paul II a eu des mots très beaux que je vous invite à relire dans vous pouvez ça facilement sur Internet, son homélie de la veillée pour les JMJ ou JMJ de Rome en 2000. Il dit, est-ce que c'est facile d'être chrétien dans ce monde aujourd'hui ? Non, c'est difficile. C'est difficile, trois fois. Oui, c'est difficile. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Ça prendra, dit-il, parfois, les chemins d'un martyr. Le martyr de la fidélité à contre-courant. Il parle des différents engagements dans lesquels c'est parfois pas si facile de tenir à contre-courant. Mais j'avais trouvé ça très beau comme façon, vous voyez, le martyr, c'est-à-dire témoignage, c'est-à-dire on meurt. Hein. Mais parfois, c'est un témoignage qui coûte. La fidélité à contre-courant. Voilà la charité que nous pouvons avoir pour ce monde. Et qui implique évidemment notre conversion. Je ne peux pas parler de Jésus-Christ si je ne vis pas du Christ. Évidemment. Je ne peux pas parler de Jésus-Christ si je ne sais pas de le suivre. Si je ne l'aime pas, ça se verra. Si j'en parle, je peux en parler comme un concept, hein, mais ça, je n'ai pas besoin d'être chrétien. Et puis enfin, dernière chose, Jean-Paul II a aussi insisté sur le fait que, pour lui, le dynamisme premier de la nouvelle évangélisation, c'était rien de moins que notre sainteté. Vous savez qu'il a beaucoup voulu, enfin, on lui doit en tout cas, d'avoir insisté sur la sainteté comme vocation universelle de tous les baptisés. C'est pour ça qu'il a tenu à canoniser des laïcs plus qu'avant, pour pas qu'on puisse penser que la sainteté est réservée à la petite carmélite ou à l'évêque évangélisateur, mais que c'était la vocation commune de chacun d'entre nous depuis notre baptême. La sainteté, non pas comme une perfection morale absolue qui fait qu'on n'aurait plus besoin de demander pardon, mais comme l'accomplissement de notre amitié avec le Christ. Hein. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Un saint, c'est un ami du Christ. Quand on dit aux enfants de Cathé, c'est un ami de Jésus, bon, ça fait un peu infantilisant. Mais en fait, c'est ça, au fond. Ami du Christ, au sens fort du terme, vous voyez. Et ce terme peut être magnifique quand on donne tout son sens. Alors, Jean-Paul II, je vous lis ce qu'il dit. En 1990, lors d'une retraite qu'il prêche à Rome pour les prêtres, il dit « La sainteté doit être le fondement de notre mission d'évangélisation. Pourquoi ? Le premier lien est que notre sainteté est une condition établie par Dieu lui-même pour rendre notre évangélisation plus féconde. » C'est que là, mon témoignage, ma vie portera du fruit si je suis ami de Dieu. C'est cette amitié-là avec le Christ que j'essaie de vivre, dont je prends soin, que je retrouve dans le sacrement du pardon quand je l'ai perdu. C'est cette amitié-là avec le Christ qui me permettra de porter du fruit. Que mes actes, que mon témoignage, que ma parole puissent porter du fruit. Le second lien est que la force surnaturelle de tout notre travail d'évangélisation vient du don de l'Esprit, c'est-à-dire du dynamisme de notre sanctification. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie, c'est l'œuvre de Dieu, notre sanctification. Ce n'est pas moi, à force du poignet, qui cherche à faire des efforts. C'est moi qui m'apprends à me laisser aimer, pardonner, sauver, qui me rend disponible à l'œuvre de l'Esprit Saint en moi, pour que l'Esprit Saint fasse de moi un saint. Comme il a fait des apôtres, hein, qui avaient enfermé, qui avaient la trouille au Cénacle. Voilà, il en a fait des évangélisateurs, des apôtres incroyables. Tout ce qui me paraît humainement difficile, l'Esprit Saint peut m'en rendre capable. Voyez, et c'est lui qui fait de nous des saints. Et c'est lui qui travaille, c'est lui qui agit à travers notre témoignage. C'est pour ça que Jésus dit, ah, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire devant les hommes. L'Esprit Saint vous donnera les mots, vous inspirera. C'est l'évangélisation, quand une paroisse évangélise, quand des chrétiens partent en mission, font du porte-à-porte ou parlent à leurs voisins, c'est l'Esprit Saint qui agit à travers vous, vous pouvez en être sûr. Vous avez un peu prié avant, et voilà. L'Esprit Saint agit, vraiment. Nous portons plus que nous-mêmes. Nous avons parfois du mal à le croire, parce qu'on est toujours, nous, un peu déçus par nos limites. mais nous portons plus que nous-mêmes. Et puis troisième chose, troisième lien que dit Jean-Paul II, troisième ressort, et c'est plus profond, la sainteté en elle-même devient évangélisation. En fait, c'est d'abord ça que nous avons à offrir au monde. Là aussi, vous voyez, on n'est pas du tout dans la méthode, dans machin. Il y a plein de spiritualités possibles, il y a plein de façons de vivre tout ça. Évidemment, il ne s'agit pas d'être uniformisé, il ne s'agit pas d'avoir la méthode miracle, il ne s'agit pas d'avoir la seule spiritualité qui réduirait la richesse de l'Église. Ce serait trop dommage. Mais il s'agit de dire simplement que, en fait, pour que ce monde soit sauvé, pour que ce monde soit sanctifié, pour que ce monde soit évangélisé, j'ai juste besoin de saints. Voilà. Et non pas du nombre, mais de la sainteté de ceux qui sont là. Vous voyez ? Donc de la vôtre et de la mienne, en fait. Et c'est là où on rejoint vraiment le cœur du carême. Si j'essaye de me convertir pendant le carême, c'est pas que pour moi, en fait. C'est parce que ce monde a besoin que je sois vraiment chrétien. Vous voyez ? C'est parce que vos enfants, vos petits-enfants ont besoin que vous soyez vraiment chrétien. Vous en verrez les fruits ou pas. Peut-être qu'il n'y a qu'au ciel que vous verrez ça. Mais ce qui est sûr, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que... quel auteur disait ça, hein, une âme qui s'élève, élève le monde. Nous sommes encordés. Et donc quand il y en a un d'entre nous qui se convertit parce qu'il se rapproche de Jésus, eh bien, mystérieusement, mais réellement, il entraîne le monde avec lui. Vous voyez ? Quand il y a quelqu'un d'entre nous qui fait du bien, qui fait le bien, qui aime, qui donne, qui se donne, eh bien, je vais donner l'image de la balance, vous savez, eh bien, quelque part, ça répare le mal, hein, qui pèse sur ce monde. Eh bien, voilà, on rétablit les choses. Voilà. On répare le mal par le bien qu'on fait. Et j'aime beaucoup, en tout cas moi, ça me parle. J'aime beaucoup l'idée, vous voyez, que le carême, du coup, n'est pas un chemin solitaire. Il ne s'agit pas juste de bosser ma perfection personnelle. Il s'agit de comprendre l'enjeu missionnaire. Avant même d'ailleurs que ce soit pour aller parler aux autres, mais parce que ce monde a besoin de chrétiens qui vivent pleinement jusqu'au bout leur vocation chrétienne. On n'est pas, Jean-Paul II parlait du haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté chrétienne et des familles doit mener dans cette direction. On ne peut pas se dire, eh bien, moi je suis un chrétien normal, donc comme il y avait un président normal, ben moi je suis un chrétien normal, donc je veux un truc, voilà, pas trop de... Comme s'il y avait une voie moyenne possible. Mais non, en fait, on ne peut pas. Mais ça n'existe pas, un ami normal, si vous êtes ami, vous n'êtes pas ami. Et on ne peut pas, vouloir vivre les choses à moitié, on ne peut pas aimer à moitié, on ne peut pas aimer normalement. Imaginez le fiancé qui dirait ça à sa fiancée. Je vais t'aimer, mais normalement, quoi. Attends pas de trucs hallucinants. Mais non. C'est ça qui est beau chez les fiancés. Quand je dis retrouve le ton que tu as reçu, mais ravive en toi la joie des débuts. C'est-à-dire que quand tu es fiancé, en fait, tu as ta fiancée, tu lui promets de l'aimer comme personne n'a jamais aimé, quand tu étais prêt à faire le tour du monde pour elle. Il y en a qui le font vraiment en plus, mais voilà. Vous voyez, et c'est ça qui évidemment, tu ne pourrais pas une vie normale, tu promets une aventure extraordinaire. Mais il faut garder, malgré tout l'enjeu ensuite, et de trouver dans une vie ordinaire, de garder cet esprit d'aventure. C'est ça la vie chrétienne en tout cas. Alors c'est ce que je vous propose de demander dans ce temps qui est ces quelques minutes qu'on va prendre ensemble, de silence, qu'on puisse demander au Seigneur de nous donner, vous voyez, à la fois ce désir de la mission, et qu'on puisse vraiment partager ces sentiments. Jésus a pleuré sur Jérusalem, qu'il n'avait pas reçu. Moi, j'espère que vous aurez tous un jour la grâce de la Terre Sainte. Et c'est un lieu où je suis toujours très ému, où il y a une église, là, à ce lieu où on dit que Jésus a pleuré. Et effectivement, on voit Jérusalem qui s'étend sous nos yeux. Et je trouve ça très émouvant, très marquant d'imaginer, de méditer Jésus qui, vous voyez, qui a ce désir de sauver tous, que tous soient sauvés, mais qui souffre devant le refus de certains de l'accueillir, lui qui venait tout donner, qui venait aimer, qui venait donner sa vie, mais l'amour ne force pas, l'amour n'impose pas. L'évangélisation n'impose rien. C'est un amour qui se propose. Et Jésus le propose inlassablement à chacun d'entre nous, mais à ce monde aussi. Et il est beau de demander la grâce de partager ses sentiments. Vous voyez, à la fois la peine quand ce monde refuse Dieu, et en même temps le désir que Jésus a toujours gardé, eh bien, de proposer à chacun, sans se décourager, cet amour de Dieu, à faire découvrir à chacun qu'il est aimé. Que ça puisse évidemment nourrir notre prière, mais que ça puisse aussi nourrir notre propre chemin de conversion, notre propre, et je le dis, aussi bien personnel que communautaire, voyez, que personnellement et en paroisse, tout ce que nous essayons de faire, de vivre pour être plus proche de Dieu, pour être des chrétiens plus authentiques, eh bien que ce soit pas simplement pour nous, mais avec la conscience très profonde que le salut, le fait que d'autres puissent un jour découvrir la joie d'être aimé de Dieu, dépend d'une façon ou d'une autre, au moins en partie, de notre propre conversion. Et c'est un encouragement extraordinaire. Parce que ça veut dire que nos petits carêmes, on fait ce qu'on peut, voilà. On essaie d'être généreux, mais c'est pas si simple. Nos vies, telles qu'elles sont, nos prières, tout cela peut avoir une fécondité bien plus large qu'on imagine. Là où il y a la croix, l'amour de Dieu est annoncé. Demandons la grâce que cette croix, nous la portions dans nos cœurs. Demandons la grâce au Seigneur qu'il nous donne le désir d'amener à Jésus, d'amener à lui, d'amener à la croix tout ce que nous aimons, tout ce que nous connaissons et tout ce qui vit autour de nous. Amen.